Rencontre spirituelle aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à Dorothy Day. Dorothy Day, qui est morte en 1980, donc il n'y a pas bien longtemps. Elle est morte à 83 ans à New York, dans les milieux les plus pauvres. Elle a passé sa vie à s'occuper des plus pauvres. C'était, disons, une travailleuse sociale. C'est un écrivain aussi. Elle a fondé une revue très importante, le Daily Worker, et puis c'est une conférencière qui était très recherchée. Et c'était une femme pauvre, humble, mais qui avait un caractère extraordinaire et que l'on songe à béatifier. Vous avez entendu ça aux nouvelles de Radio Ville-Marie il y a 2-3 jours. On songe vraiment à la béatifier. C'est tout un personnage qui a cherché le bonheur là où il est. Et non pas comme dans cette émission de Radio-Canada hier qui était bien pénible sur le bonheur. Mon Dieu, que c'était vide, je n'en revenais pas. Quelle tristesse cette émission de télévision, je m'attendais à voir en jeu quelque chose d'autre. Mais j'ai vu auparavant Turbulence, je ne sais pas si vous avez regardé ça à Télé-Québec, 24 heures dans le marché global. C'était un documentaire sur l'épouvantable économie mondiale qui écrase presque l'humanité entière. Et nous en allons vers un irrespect à l'égard des pauvres, alors que Dorothy Day nous enseigne au contraire le profond respect des pauvres. Souvenez-vous, en 1955, au mois de mai, les gens plus âgés, il y avait l'abbé Pierre qui était très, 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 très connu pour son amour des pauvres. Il était entouré du prestige de millions d'admirateurs et il s'est embarqué en France en 1955, au mois de mai, donc pour les États-Unis. Et puis, on le revoit donc à New York, cet abbé Pierre, dans son milieu qu'il préfère tellement. Quoi, parmi les clochards, parmi les abandonnés, parmi ceux qui cherchent un toit et qui ont faim. Mais partout, il y a une femme qui le guide. C'est une femme dont le visage, qui était beau, est une belle femme, énergique et grave, qui porte les traces d'une longue lutte, puis de longue souffrance. Elle est née en 1897, il y a 100 ans. Il y a eu 100 ans, il y a quelques jours, au début de novembre, qu'elle est née. Mais c'est elle qui l'accompagne, Dorothy Day. On peut se dire qu'on n'avait pas pu mieux choisir pour ouvrir à l'abbé Pierre la connaissance des pauvres de l'Amérique des États-Unis. Depuis les années de sa jeunesse, Dorothy Day a mené le combat. Un combat incroyable pour la justice et la liberté. Mais c'est une vie surprenante. Je vous dis tout de suite, c'était une anarchiste, une athée, mon Dieu, elle s'est même fait avorter, elle a eu des amants. C'était tout un personnage, elle était marxiste. Elle est morte comme une sainte, après une vie de sainteté à partir de l'âge d'à peu près 30 ans. Donc plus de 50 ans de vie profondément chrétienne. Mais même quand elle était comme ça, il y avait un combat intérieur, toujours. Et ce combat intérieur, pour lui donner un sens à sa vie, ça va l'acheminer vers la pleine lumière de la foi catholique. Elle est venue à l'église, Dorothy Day, trouvant, c'est ce qu'elle dit, un zèle nouveau pour continuer cette espèce de corps à corps épuisant de combat avec la misère et la faim, l'injustice puis l'oppression. Dorothy Day, un nom catholique qui symbolise pour des milliers d'Américains et de Canadiens anglais, mais ici elle est si peu connue au Québec, des milliers de pauvres qui sont écrasés par le monde moderne. Pour eux, cette femme est demeurée, malgré les 17 ans qui nous séparent de sa mort, une raison de vivre, un bonheur possible. Et c'est pour ça qu'on songe à obtenir sa béatification. C'est l'archevêque, le cardinal l'archevêque de New York qui y songe. Il n'est pas seul. Donc en 1897, il y a 100 ans, alors que New York connaît une poussée de fièvre quotidienne comme aujourd'hui, n'est-ce pas, les financiers de Wall Street et puis les gens très riches, sur la 5e avenue, vont assouvir leurs appétits de lucre, comme on nous montrait dans cette émission de Télé-Québec hier, qui était admirablement bien faite pour nous montrer l'horreur de la bêtise de nos placements qui se font au détriment des pauvres. Mais de l'autre côté de la rivière Hudson, il y a Brooklyn. Une population laborieuse, une population très diversifiée. C'est là, dans une famille de Bat Beach, que Dorothy Day vient au monde le 8 novembre 1897. Son père était originaire du Tennessee. Ça vous dit quelque chose, peut-être? Une région où il y a beaucoup de pauvreté. Il travaille de nuit. Il est quand même rédacteur sportif dans les bureaux d'un journal quotidien. Et la mère, elle, est absorbée par les soins ménagers parce qu'elle a 4 enfants, hein, 2 garçons et une fille qui ont précédé Dorothy, c'est la plus jeune. Mais Dieu n'est pas un étranger pour Dorothy Day dans son jeune âge. On a d'elle un témoignage d'enfance qui est très beau. Et ça arrive souvent à des enfants. Dites-vous que dans vos enfants se déroulent parfois des choses qui ne vous diront jamais. Elle écrit, et ensuite je me souviens que nous nous trouvions sur la véranda. Assise à la table, je prétendais jouer au professeur en lisant à haute voix dans une Bible que je venais de trouver. Lentement, tandis que je lisais, une personnalité nouvelle s'imprima en moi. J'étais comme introduite auprès de quelqu'un et je sus presque immédiatement que je découvrais Dieu. C'est curieux comme les enfants peuvent découvrir Dieu très jeune. Mais dès son jeune âge, Dorothy éprouve de l'attrait pour la prière et cet attrait ne pourra être comblé que bien plus tard. Sa mère, qui est quand même une femme admirable, ne pratique aucune religion, ça ne l'intéresse pas, comme tant de gens aujourd'hui. Quant à son père, il est trop absorbé, lui, par sa profession pour trouver le temps de participer à des réunions religieuses, mais c'est un grand admirateur de la Bible. Surgit l'intervention d'un prêtre ou d'un pasteur épiscopalien, ici on dit anglican, qui aime les enfants. Et puis, il les amène à fréquenter l'église épiscopalienne. Et Dorothy reçoit sa première initiation à la prière à l'âge de 10 ans. Elle y est baptisée et confirmée. Elle est entraînée par ses rêves d'adolescence un peu plus tard et par un immense désir d'absolu. Elle se laisse tenter par le marxisme qui lui présente un rêve de partage des richesses. Les allusions révolutionnaires, d'ailleurs, on les retrouve dans ses compositions anglaises au grand émoi de la petite dame qui était chargée des cours de dissertation à l'école. Faut pas oublier que c'est l'époque, à ce moment-là, où les tsars de Russie, le tsarisme s'effondre. Ils sont assassinés, on vient de retrouver leurs restes, là. C'est l'époque où le peuple russe se dresse debout. Une société en décomposition cède la place au gouvernement des travailleurs. Et Dorothy est séduite par ça. Sa passion pour la Russie la prend tout entière. Elle dévore Dostoïevski, ça l'enthousiasme. Et face à son besoin de dévouement, elle ne rencontre dans les milieux religieux qu'elle connaît qu'une indifférence pleine de respectabilité. Elle décrit, c'est terrible la description qu'elle fait du christianisme. Je ne voyais personne enlever son manteau pour le donner à un pauvre. Je ne voyais personne offrir un banquet et y appeler les boiteux, les estropiés et les aveugles, comme dans l'Évangile. Je voulais la vie, je ne la voulais en abondance. Je voulais que chaque maison soit ouverte aux estropiés, aux boiteux, aux aveugles, comme cela s'était produit après le tremblement de terre de San Francisco en 1907, vous vous souvenez. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les gens vivraient réellement et aimeraient réellement leurs frères. Alors Dorothy Day obtient une bourse d'études, heureusement, et elle entre à l'Université de l'Illinois, Chicago. Elle y prend véritablement conscience, au travers de l'histoire du monde ouvrier, là. Elle prend conscience de l'esclavage auquel le capitalisme a réduit la classe ouvrière. Surtout à cette époque, c'était pire qu'aujourd'hui. Les fermiers sont acculés à la ruine. Les travailleurs sont minés par un labeur inhumain. Les femmes et les enfants sont astreints à des journées de 12 heures et davantage. On est durant la guerre 14-18, là. Alors, à cette époque, son sentiment religieux est mis à dure épreuve. Elle écrit : le conflit réel se déroulait en moi à ce moment pour dominer mon sens religieux. Je me mis à jurer, à faire exprès de prononcer en vain le nom de Dieu, rien que pour choquer mes amis qui allaient à l'église. Quand j'étais petite, la paix heureuse de nos voisins méthodistes m'avait profondément attiré. Et à présent, ce même bonheur me paraissait être une insulte à la misère du monde. Alors elle décide de renoncer aux études et de courir sa chance. Pendant des mois, elle arpente les bureaux de rédaction à la recherche d'un emploi. Mais elle est contrecarrée par son père, qui a prié tous ses amis journalistes de ne pas l'embaucher. Alors finalement, un quotidien socialiste, le Call, accepte qu'à titre d'essai, elle écrive une série d'articles destinés à prouver au public qu'il est possible de vivre avec 5 $ par semaine. Alors son père, qui est adversaire du travail des femmes, lui enjoint de quitter la maison familiale. Alors là, c'est les vies d'aventure. Hein. C'est l'expérience qu'elle fait pour le quotidien, le corps, lui permet de découvrir un aspect de la misère. Ça lui prouve par contre qu'il faut relativement peu pour vivre. Dès que l'on s'est débarrassé de quoi? De toutes les complications de la vie bourgeoise qu'elle a en horreur. C'est l'époque où elle fréquente différents mouvements ouvriers américains, tels que les IWW, c'est l'Union mondiale des travailleurs, hein, et où elle est séduite par quelques personnalités de tendance anarchiste. Un jour, elle se rend à Washington en compagnie d'un groupe de suffragettes. Elles veulent réclamer la libération de féministes qui ont été arrêtées quelques jours auparavant pour avoir provoqué des mouvements de grève, mais les manifestantes sont à leur tour arrêtées et emprisonnées. Elles n'ont plus de droits. Elles ne sont pas considérées comme des détenues politiques. Elles entreprennent une grève de la faim qui va durer 10 jours. Après quoi, on va enfin faire droit à leur requête. Mais durant cette captivité, Dorothée D demande une Bible. Elle reprend contact avec la prière un peu. Mais cependant, ce geste, ça va faire que renforcer son opinion. La religion, pour elle, finalement, devient qu'un palliatif aux misères de l'existence. C'est un opium, finalement, c'est ce qu'elle croit. Alors elle est libérée de la prison, puis Dorothée D revient à New York, où, sans travail bien défini, elle vit une période très confuse. Elle dit: « Il m'est arrivé plus d'un matin, après avoir passé toute la nuit dans des tavernes et des bals à Webster Hall, d'aller assister à une messe matinale à Saint-Joseph, dans la 6e avenue. Oh, je n'étais pas catholique, je m'agenouillais dans le fond de l'église, sans savoir ce qui était en train de s'accomplir sur l'autel. » Mais réchauffé, réconforté par les lumières, le silence, les gens à genoux, l'atmosphère d'adoration. On a tellement besoin de vénérer et d'adorer, ajoute-t-elle. Puis, comme elle le dit elle-même, la vie de la chair m'a sollicité de nouveau comme une vie bonne et pleine, sans aucun rapport avec la loi des hommes contre laquelle je m'insurgeais, la trouvant faite pour la répression des autres. Alors elle s'oppose au mariage, comme vous voyez, mais sa nature foncièrement généreuse et droite se fatigue vite de toute cette agitation, la dissipation, l'immoralisme, les idées creuses. Elle entrevoit soudain l'aspect tragique et insupportable de sa vie, et on est en 1918, là, elle a 20 ans, et le pays manque d'infirmières, alors elle s'engage, et cette expérience d'infirmière la bouleverse parce que ça l'oblige à un continuel oubli de soi, puis ça lui montre en même temps une certaine laideur, puis une certaine dureté de la vie qui va l'amener vers l'Évangile petit à petit. Elle, comme une infirmière, elle s'est approchée de la misère humaine de façon concrète. Et la guerre terminée, donc, de 14-18, là, Dorothée D est reprise par sa passion de journalisme. Ici se place une aventure qui aura dans la vie de Dorothée D une résonance profonde et inoubliable. Un soir, elle se trouvait au siège de l'IWW, là, au chevet d'une amie malade qui était hébergée à cet endroit-là. Et soudain, le silence est déchiré par la longue plainte des sirènes de la police, et l'immeuble est cerné, et les policiers les arrêtent toutes deux, tandis que la plupart des hommes s'échappent par les escaliers de secours ou par les toits. Et c'est alors les menottes, puis les cachots de la voiture cellulaire, parce qu'on les prend, évidemment, pour des ennemis de l'État, des révolutionnaires. Leur présence dans l'immeuble a été mal interprétée. Elles sont déférées à la police des mœurs. Là, on les prend finalement pour des gens qui habitent un bordel. Dorothy Day doit passer plusieurs jours dans le département spécial de la prison, qui est réservé aux prostituées, puis elle touche là jusqu'à quel degré d'esclavage le vice peut conduire. Elle écrit à ce sujet, « Ça a été l'expérience la plus affreuse, que j'ai jamais pu souhaiter faire. Mais je crois qu'elle m'a été utile. Quoi qu'il m'arrive, je ne crois pas que je puisse jamais souffrir plus qu'à ce moment-là, où j'ai connu la honte, le regret, le mépris de soi-même. Non seulement parce que j'avais été arrêté, marqué d'opprobre et humilié publiquement, mais parce que je me rendais compte que je n'avais que ce que je méritais. Vous savez, quand on est accusé, quand on est blessé, même injustement, on peut se dire qu'on le mérite parce que bien des fois, on a fait des choses qu'on n'a pas été pris. Et c'est à ce moment-là qu'on est humilié. Et c'est une bonne chose. Et après quelques jours, Dorothy Day est libérée sur l'intervention de ses amis, mais elle souffre pour les autres. Elle dit, « J'ai pu partir, mais les autres, j'ai été libérée sans condamnation parce que j'avais des amis, j'avais un milieu, j'avais une éducation qui constituait des privilèges. J'avais souffert, mais je ne faisais pas partie de la masse des gens. » Elle veut faire partie des pauvres. Elle veut vivre, c'est extraordinaire, sans le savoir, l'Évangile à plein. Au cours de l'hiver, elle loue une chambre chez une famille catholique. Premier contact. Elle s'y lie d'amitié avec la fille aînée, ainsi qu'avec une Canadienne, peut-être une Québécoise, je ne sais pas, catholique elle aussi, dont elle partage d'ailleurs la chambre. Je crois que c'était une Québécoise, elle s'appelle Blanche, cette fille. Et Dorothy admire à la fois leur attitude devant la vie puis leur confiance en Dieu, mais ce qui la surprend, c'est que toutes les deux passent, indifférentes, à côté de sa peine, et n'ont jamais cherché à l'intéresser à leur foi. Comme nous sommes moches, souvent, hein? Mon Dieu, si on n'était plus réveillés, hein? Le catholicisme, dit-elle, me paraissait quelque chose de riche, de vrai, de fascinant, mais je me sentais en dehors. Et tout en m'amenant avec elle à la mission, elles ne se sont jamais dit que je pourrais avoir envie de parler à un prêtre. Quelle tristesse. Elle ajoute, je les ai vus prier, la prière publique et les agenouillements de Blanche près de sa table ont fait sur moi une impression que je n'ai pu oublier. Cette attitude, ce geste me convainquait que l'adoration, la louange, l'action de grâce, la supplication étaient bien des actes les plus nobles dont les hommes soient capables dans leur vie. Ça me rappelle une entrevue que j'avais faite avec Eugène Ionesco qui disait que la prière, lui qui n'était athée à ce moment-là, il disait que la prière était l'acte le plus noble que l'homme pouvait poser. Mais il s'est converti, puis il allait à la messe tous les jours avant de mourir, Ionesco. Ici se situe la période cruciale de sa vie. Dorothy Day découvre soudain le bonheur humain de cette découverte. Et puis, elle découvre cette découverte, quoi, qui va l'amener définitivement à Dieu, seul capable de donner une joie plus profonde. Dieu seul est capable de nous révéler le sens de notre vie, le bonheur. Ça n'a pas été dit du tout dans l'émission de Radio-Canada hier soir pendant une heure. On n'a pas parlé de ça. C'est incroyable. Voilà qu'un jeune anarchiste, Foster Batterham, s'attache à elle. Ils décident de vivre ensemble d'une union libre. Ça lui ouvre un monde entièrement nouveau. Ça lui procure à Dorothy Day une paix qu'elle n'a jamais connue jusqu'alors. Elle note cependant avec beaucoup de finesse, c'était une paix assez curieusement divisée contre elle-même. J'étais heureuse, certes, mais mon bonheur même me faisait pressentir que la vie pouvait réserver un bonheur encore plus grand que tout ce que j'avais pu connaître jusque-là. Je me suis mise à réfléchir, à peser toutes choses. C'est alors que j'ai commencé consciemment à prier davantage. Alors son ami, Foster Batterham, est un être original, une nature droite et honnête. Il semble compenser sa révolte contre les hommes par une passion pour la nature et les enfants. C'est un anarchiste dans l'art. Il refuse toute forme de contrainte sociale. Aussi, les préoccupations religieuses de Dorothy Day, non seulement lui sont étrangères, mais ça lui paraît très vite inacceptable. Elle écrit « Foster, le silencieux devenait intarissable dans sa colère. » Et sa colère, disait-il, était provoquée par ce qu'il appelait mon absorption dans le surnaturel plutôt que dans le naturel, dans l'invisible plutôt que dans le visible. J'ai parlé de ça hier dans l'émission, parce que l'Église respecte l'intelligence. Malgré cela, le désir de prière de Dorothy Day augmente, presque en même temps que augmente son bonheur. Elle se surprend à prier tous les jours en marchant, puis un sentiment de révolte la saisit, et elle se dit à elle-même, « Te voilà plongée dans une torpeur béate. Tu es une créature physique, comme une vache. Pour toi, la prière est bien l'opium du peuple. » Elle chemine, comme vous voyez, l'Esprit Saint la gruge. Mais l'Esprit, son esprit répond bientôt, par la voix de sa conscience, « Si je prie, c'est parce que je suis heureuse, et non pas parce que je suis malheureuse. Je ne me suis pas tournée vers Dieu par détresse, chagrin ou désespoir, ni pour obtenir de lui des consolations. Mais dans la mesure où son attrait pour Dieu grandit, là, il y a un fossé qui se creuse entre son ami Foster et elle. Il m'était impossible de parler de religion ou de foi avec lui. Un mur nous séparait maintenant. L'amour même de la nature et l'étude de ses secrets, qui m'amenait à la foi, retranchait Foster de la religion. C'est un drame d'autant plus profond que Dorothy Day confesse elle-même. Elle dit, « J'ai toujours eu l'impression que vivre avec lui m'a apporté le bonheur naturel et m'a conduite à Dieu. Son amour ardent de la création m'a mené au Créateur de toutes choses. » Mais quand je disais à Foster, « Comment pourrait-il ne pas y avoir de Dieu alors qu'existent toutes ces choses splendides, tous ces coquillages fantastiques, qui sont si beaux et qui sont cachés dans la mer que la télévision nous révèle? Et la beauté des arbres, des fleurs et des animaux, la beauté des saisons. Alors il se détournait de moi, mal à l'aise, et se plaignait de ce que je ne sois jamais contente. J'ai hésité à vous raconter qu'avant de rencontrer Foster, elle avait rencontré aussi Eugene O'Neill, le fameux écrivain américain, auteur de pièces de théâtre fameuses, Cat on the Tin Roof et tout ça, là. La chatte sur un toit brûlant, etc. C'était son compagnon pour plus d'un an. Elle a eu aussi un autre compagnon qui lui a fait un enfant. Et il l'a menacé de la quitter si elle ne faisait pas avorter. Et la pauvre, elle s'était fait avorter. Mais là, avec Foster, ce sera différent. Ils auront un enfant. Ils ont une fille qu'ils appellent Tamar Teresa. Teresa. Et Dorothy se sent envahie par une joie immense, totale. Et toutefois, son sentiment n'est pas partagé par Foster, qui est obsédé par la peur des responsabilités, par le sentiment que si un homme n'est pas fait pour être père, c'est bien lui. Et de son lit d'hôpital, Dorothy écrit dans le journal New Masses un article sur son enfant. « Tant, dit-elle, j'avais besoin de partager ma joie avec le monde. » Et l'article a eu un immense retentissement. Il est repris par les journaux ouvriers du monde entier, même par ceux de l'Union soviétique. Et c'est dans ce débordement d'amour que Dieu va définitivement se révéler à elle par la naissance de cet enfant. Dorothy Day a souffert pendant de nombreuses années d'une profonde insécurité spirituelle. Et puis... Elle veut à tout prix éviter une telle souffrance à son enfant qu'elle vient de mettre au monde, la petite Tamar Teresa. Elle écrit quelque chose de très important. Écoutez bien, c'est très important. « Je savais que je ferais baptiser mon enfant dans l'Église catholique. » Elle n'est pas catholique. Et elle dit « Coûte que coûte, je ne voulais pas que mon enfant ait comme moi à se débattre pendant des années, doutant, hésitant, sans discipline ni morale. Je savais que c'était ce que je pouvais faire de plus grand pour mon enfant. » J'espère que vous entendez bien. Elle ajoute, pour moi-même, je priais pour recevoir le don de la foi. J'étais convaincu, sans l'être tout à fait. Je remettais toujours le moment d'une décision. Alors elle sait que son union avec Forster Betterham est illégitime, comme on disait. Une union libre. Pas de mariage. Par ailleurs, Forster Betterham ne veut pas changer de conception de vie. Il y a une lutte qui s'engage désormais, on pourrait dire, entre les exigences profondes de l'amour divin, puis celle d'un foyer où elle trouve quand même un compagnon auquel elle est attachée, comme à la vie, elle l'aime beaucoup. Mais le dilemme ne lui échappe pas, elle écrit « Il y avait la législation de l'Église sur le mariage, pierre d'achoppement pour beaucoup. C'est là que j'ai commencé à me troubler, à avoir peur. Devenir catholique signifiait pour moi abandonner un compagnon que j'aimais passionnément, au point qu'il n'y eut plus pour moi qu'une seule question, savoir si je choisirais Dieu ou si je choisirais un homme. » Elle aurait décidé à faire baptiser sa fille, comme je vous ai dit. Alors Dorothy Day cherche désespérément parmi ses voisins un catholique qui va lui parler de religion. Une certaine pudeur de sentiment l'empêche de faire le premier pas et finalement, elle est décidée à tout, elle aborde une religieuse qu'elle reconnaît par son costume, évidemment, qui passait, sœur Aloysia. Elle lui demande comment elle pourrait faire baptiser son enfant. Et la religieuse ne semble pas surprise, c'est une bonne sœur américaine, déjà très ouverte pour cette époque. Alors, cette sœur, dit-elle, sentait que j'aimais. Et j'ai été réchauffée par son intérêt. Elle m'a pris immédiatement sous sa direction. Et sans minimiser les difficultés, elle n'a pas cru un instant que ce soit insurmontable. Pour les détails pratiques, nous agirions comme s'ils étaient peu compliqués. Avais-je l'un ou l'autre parent catholique? Alors oui, il y avait ma cousine, Grace, et son mari. Et nous pourrions prendre contact avec eux, bien que je ne les avais pas rencontrés, ni eux, ni aucun membre de ma famille depuis des années. Alors, bien, il fallait évidemment qu'une personne catholique puisse assurer l'éducation chrétienne de l'enfant. J'étais comme ça parrain, moi, d'un garçon aux États-Unis, mon petit cousin, dans une famille protestante. Mais sa mère tenait au baptême catholique. Comme rien ne s'arrangeait, eh bien sûr, Aloysia insiste auprès de Dorothy en lui disant, « Ben, c'est vous qui devez vous faire catholique. » Oh! Alors, elle travaillait par la grâce depuis des mois. Finalement, elle cède à son amour pour sa fille et Dorothy Day accepte de suivre des leçons de catéchisme 3 fois par semaine. C'est pas facile. Ce sont des journées bien dures pour cette catéchumène extraordinaire et exceptionnelle. Elle disait, elle écrit, « Je bataillais jour après jour sans désemparer. J'étais dans une espèce de joie léthargique, presque bovine, de contentement animal. Je n'avais pas envie d'approfondir ni de poser des questions sur les dogmes que j'étudiais. J'avais décidé d'accepter ce que je ne comprenais pas, de croire que la lumière viendrait par la suite, dans un éclair fulgurant. » Elle avait raison, c'est comme ça qu'il faut procéder. Enfin, la petite Tamar Teresa est baptisée, et Forster Betterham n'est pas content du tout, lui le père. Alors, il y a des absences du domicile, qui deviennent de plus en plus fréquentes. Et quant à Dorothy Day, elle a l'impression qu'en embrassant le catholicisme, elle va trahir la cause des travailleurs, et plusieurs mois se passent ainsi, dans le doute. Et pourtant, le dénouement est proche. Elle écrit, « La tension était devenue si forte entre Forster et moi pendant l'hiver qu'un éclat se produisit, et nous nous sommes séparés encore une fois, et quand il est revenu, comme il avait toujours fait, eh bien, je ne l'ai pas laissé entrer dans la maison, même si je l'aimais. J'avais pris la décision d'en finir, une fois pour toutes, avec la torture que nous endurions. Et le lendemain, j'ai confié Tamar à ma sœur. Et je suis allé seul à Tottenville. À mon tour, j'ai été baptisé, sous condition, puisque j'avais déjà été baptisé à 10 ans dans l'église épiscopalienne. Aussitôt, j'avais fait ma première communion. Et je me suis préparé. Donc, j'ai fait ma première confession, plutôt, puis j'ai, me suis préparé à communier pour la première fois le lendemain matin et je n'ai éprouvé, écoutez bien ça, aucune joie spéciale à recevoir ces trois sacrements. J'accomplissais ces gestes prescrits froidement, même tristement, faisant des actes de foi sans aucune espèce de consolation. Ça ressemble à ce que nous raconte Thérèse de l'enfant Jésus sur l'absence de consolation et tant de saints. Ainsi, l'aboutissement de son long pèlerinage n'est pas marqué par la joie qu'elle est en droit d'attendre. Bien plus, le sentiment de trahir ses anciens compagnons de lutte l'attiraille davantage. Et de son propre aveu, Dorothy Day ignore tout à l'époque de la doctrine sociale de l'Église. Elle est au contraire persuadée que l'Église, du moins dans certains de ses représentants, s'est accoquinée aux classes possédantes puis aux forces de la réaction. Elle a cependant été frappée par le fait qu'aux États-Unis, l'Église réunit surtout des ouvriers puis des pauvres, à l'époque surtout. C'était les Italiens, les Polonais, les Irlandais, c'était les immigrants qu'on gardait dans les emplois les plus pauvres. Elle écrit « Je n'avais jamais entendu parler des encycliques. Je devinais que l'Église était l'Église des pauvres, puisque la cathédrale Saint-Patrick avait été bâtie, saviez-vous ça, avec les sous des servantes. » Et puisque l'Église s'occupait des immigrants, qu'elle fondait des hôpitaux et des orphelinats aussi. Mais, en même temps, ajoute-t-elle, il me semblait qu'elle ne se montrait pas telle qu'elle aurait dû être, en face d'un ordre social qui rendait si nécessaire la charité au sens actif du mot. C'est pour elle une révélation. Un bonjour que de voir combien humaine est la doctrine sociale de l'Église que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Elle n'a rien à changer finalement à ses propres principes quand elle prend contact avec ces textes magnifiques. Alors convertie, elle continue à se livrer à des activités de journaliste et elle collabore à certaines revues catholiques, notamment à Commonweal, la grande revue catholique américaine. C'est en qualité de reporter de cette revue qu'elle assiste à Washington à la fameuse marche de la faim. Qu'est-ce que c'est ça? Imaginez que de tous les coins des États-Unis à cette époque-là, des groupes de chômeurs veulent manifester à Washington. Ils ont loué de vieux camions qu'ils ont pavoisés de slogans. Quitte New York. Puis ils traversent les villes. Les chômeurs s'y arrêtent pour organiser des meetings dans les temples protestants. Et l'une de ces réunions est interrompue par la police qui jette des bombes lacrymogènes à travers les fenêtres, imaginez, terrible. Et lorsque les occupants sortent du temple protestant, ils sont matraqués et les meneurs arrêtés. Mais tous ces incidents n'empêchent pas les ouvriers de persévérer jusqu'à Washington. Et sous la menace des mitrailleuses, ils sont stoppés à l'entrée de la ville. Stoïques, solides, ils campent sur place. 3 jours et 3 nuits. En plein mois de décembre, tandis que la presse à sensation porte que jusqu'à l'hystérie la tension nerveuse d'un public qui est réactionnaire, pense à son argent, comme aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est Mammon qui mène le monde, je crois, c'est pas Dieu, c'est Mammon, mon Dieu, est-ce qu'on va en sortir? Puis vient subitement l'ordre de permettre la manifestation et sous un soleil magnifique, heureusement, les ouvriers défilent triomphalement à travers les rues de Washington, la capitale, et Dorothy Day les voit passer. Et pour la première fois en pareille occasion, elle est sur le trottoir et non dans le cortège. Elle est profondément bouleversée. Puis la manifestation terminée, elle se rend au sanctuaire de l'Université catholique, la grande Université catholique de Washington, pour y prier. Hier, je vous parlais des universités catholiques que l'Église a établies, que l'Église respecte l'intelligence. Elle dit, là, j'ai présenté dans cette chapelle, à Dieu, une prière spéciale. J'ai supplié qu'une voie me soit ouverte, un chemin me soit ouvert, où je pourrais utiliser pour mes camarades ouvriers les talents que je possédais. Et cette prière va être exaucée très rapidement. Rentrée à New York, elle y fait la connaissance de Pierre Morin, M-A-U-R-I-N, qui se fait appeler Peter Morin, un Français. Voici comment Dorothy Day décrit leur première rencontre. C'est extraordinaire, c'est providentiel. Dieu s'occupe de ceux qui se donnent à lui. En entrant dans mon appartement, j'y ai trouvé, m'attendant, un petit homme court, ramassée, d'environ 50 à 55 ans, aussi mal habillée, aussi peu soignée que les marcheurs de la faim que je venais de quitter. L'homme s'est présenté brièvement. Je suis Peter Moran. George Schuster, le directeur de Commonweal, la revue, m'a dit de venir vous voir. Il m'a dit que nous avions les mêmes idées. Comment décrire Peter Moran et l'impression qu'il a fait sur moi? Intensément vivant, éveillé, même lorsqu'il se taisait et qu'il lisait ou qu'il réfléchissait. C'est un fils de paysan. C'est un catholique passionné que ce Peter Morin, ou Pierre Morin. Il est hanté par l'idée de résoudre les problèmes sociaux au moyen d'un retour à la Terre, et en réaction contre le matérialisme de l'époque, du même matérialisme aujourd'hui qui est encore pire, mais il rêve d'édifier une société dans laquelle il serait plus facile d'être bon. Sachant que, lorsqu'on est bon, on est heureux. C'est ça le bonheur. On ne l'a jamais dit hier à la télévision. Quand on est bon, on est heureux. Il veut vulgariser ce programme, un peu utopique, ça, en lançant un journal populaire qui sera la base d'un plan à longue échéance, aboutissant à une révolution verte. Et lui-même, d'ailleurs, il se présente volontiers comme un homme de pensée. Il se refuse à considérer les détails pratiques, puis il déclare simplement « Moi, j'énonce des principes ». Le journal, c'est Doherty qui, avec toute son expérience du métier, va le lancer. Peter voudrait l'appeler « The Catholic Radical ». Mon Dieu, le radical catholique, wow! Avec toute l'explosivité que ce terme contient dans la mentalité américaine, surtout dans ce temps-là, alors, Dorothy Day tient bon, puis elle l'appelle « le Catholic Worker », l'ouvrier catholique, quoi. Et son idée triomphe. Les débuts sont épiques, c'est fantastique. C'est digne d'une vie de saint. C'est empreint d'une confiance folle dans la providence de Dieu, qui nous aime quand on travaille pour lui. Et c'est d'ailleurs Peter Moran qui disait « Dans la vie des saints, le capital, l'argent, là, venait de la prière. Dieu envoie ce qu'il faut quand il faut. Vous serez en mesure de payer l'imprimeur. Vous n'avez qu'à lire la vie des saints. » Et Dieu envoie ce qui est nécessaire. Le premier numéro du Catholic Worker paraît le 1er mai 1933, avec un tirage de 2600 exemplaires. Il passe en 3 ans, écoutez bien, à 150 000 exemplaires en 3 ans. Il atteint 600 000 exemplaires, puis même davantage. Le Catholic Worker constitue l'expérience unique d'un journal s'inspirant directement de l'Évangile et s'adressant, à l'instar de Notre Seigneur, aux pauvres et aux miséreux. Les pauvres, c'était ceux qui avaient du travail, qu'ils soient organisés ou non, comme ceux qui étaient en chômage ou travaillaient dans les organisations de secours national. Les miséreux, c'était les hommes et les femmes qui venaient faire la queue à notre porte pour avoir du pain, et nous ne pouvions pas faire grand-chose pour eux sinon leur donner ce que nous avions, en fait, de nourriture et de vêtements. Et l'action du Catholic Worker et de sa vaillante équipe a aiguillé le catholicisme américain sur des voies nouvelles, et nous verrons ça tout à l'heure. C'est une aventure extraordinaire et magnifique. Et Dorothy Day en est un des exemples les plus remarquables. Dorothy Day fait fi d'un conformisme bien-pensant, qui est si souvent aux antipodes du véritable esprit évangélique. Le conformisme bien-pensant des catholiques, parce que des catholiques se sont fait l'écho, heureusement, des malheureux de tout genre. Elle travaille avec eux, avec ces catholiques-là. Elle s'occupe des grévistes, des chômeurs, des victimes de l'exploitation capitaliste et des objecteurs de conscience, comme l'Église s'en occupe. Mais c'est pas tous les catholiques qui comprennent. Et c'est ainsi que, débordant largement le plan du journal, l'équipe du Catholic Worker, dirigée par Dorothy Day et Peter Moran, a créé un vaste mouvement d'aide et d'assistance aux miséreux des villes sous la forme de maisons d'accueil et d'hospices établis dans les principales villes des États-Unis. C'est fantastique. Cette expérience devait se prolonger dans ce qui a été appelé les communautés, the communities, directement inspirées par les idées de Peter Moran, sur le retour à la terre et la révolution verte. C'est longtemps avant les hippies. Et c'est pas sur le même esprit. C'est pas la liberté sexuelle. C'est pas la liberté de fumer du pot et de prendre la drogue. Malgré qu'il y avait des bonnes choses dans leur communauté, il y avait une certaine entraide, mais que d'abus. Il s'agissait de l'exploitation commune de fermes, soit par un groupe de familles, soit par un groupe d'individus, tous issus des villes, et visant à réaliser, quoi, une sorte de cellule économique. On se disait « mangez ce que vous produisez et produisez ce que vous mangez ». Et telle était une des formules favorites de Peter Morin. Mais ce qui, dans les multiples activités des militants du Catholic Worker, frappe le plus, à mon avis, c'est leur esprit de détachement, de pauvreté volontaire, puis d'hospitalité. La pauvreté volontaire, puis l'hospitalité, savoir ouvrir sa porte aux pauvres. Le contraste avec la prodigalité du American Way of Life traditionnel, c'est bien que trop frappant. Pour ne pas être noté, Dorothy Day et ses compagnons ne vont pas aux pauvres, mais pauvres eux-mêmes, ils se sont installés parmi eux, c'est héroïque, et ils ont laissé la porte ouverte. Ça se fait à Montréal, on en a interviewé à Radio-Ville-Marie, j'en ai entendu à l'émission de Gilbert Charron l'après-midi, et d'autres, ah, des gens extraordinaires qui vivent avec les pauvres et pour les pauvres ici à Montréal, dans ce même esprit. Jamais les gens du Catholic Worker n'ont fait l'aumône, qui trop souvent blesse et humilie les pauvres. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils partagent, c'est-à-dire qu'ils donnent et qu'ils reçoivent. Et on comprend dès lors que ce soit Dorothy Day qui a guidé l'abbé Pierre, comme je vous ai dit, auprès des chômeurs et dans les taudis en 1955. Au contact de la masse ouvrière, Dorothy Day a retrouvé son enthousiasme, et plus que jamais, elle a conscience d'avoir réalisé son ambition. Elle est une radicale au sens que ce mot prend dans la langue américaine. Et tour à tour, Dorothy Day a été syndicaliste, anarchiste, communiste, non par l'étude des théories, mais à cause des souffrances qu'elle voyait autour d'elle. C'était toujours cette vibration évangélique qu'elle ignorait elle-même. Et il était donc normal que son catholicisme s'épanouisse dans les œuvres les plus éclatantes d'amour du prochain. Elle écrit « Moi, la stérile, je me trouvais la mère joyeuse d'enfants. » Certains disent que la principale caractéristique du Catholic Worker est la pauvreté. Non, non, c'est la communauté, disent d'autres. Mais le mot de la fin, je le dis, je l'affirme, dit Dorothy Day, c'est l'amour. « Nous ne pouvons aimer Dieu, dit Dorothy Day, sans nous aimer les uns les autres. Et pour nous aimer, il faut que nous nous connaissions. Nous le connaissons, le Christ, à la fraction du pain. Et nous nous reconnaissons aussi à la fraction du pain. Nous ne sommes plus jamais seuls. Le ciel est un banquet. Et la vie aussi est un banquet, même avec une croûte de pain, là où il y a compagnonnage. Nous avons tous connu la longue solitude, et nous avons appris que le seul remède, la seule solution, c'est l'amour, et que l'amour vient de la communauté. Elle a passé tout le reste de sa vie au Catholic Worker, rue Mott, M-O-2-T, à Manhattan, dans le Lower East Side. Elle était disponible 24 heures sur 24. Il lui est arrivé une sorte de petit malheur d'après elle. À 75 ans, elle a été honorée par l'Université Notre-Dame, la grande université catholique Notre-Dame. Et ça exerçait un peu sa patience. Elle disait, « Don't call me a saint. I don't want to be dismissed that easily. » Je traduirais, « Ne m'appelez pas une sainte. Je ne veux pas être mise au rancard aussi aisément. » Elle avait de l'humour. Elle était surtout très humble, avec une grande intelligence, une grande fierté, un grand amour. Et Dorothy Day est morte en 1980, le 27 novembre, il y a 17 ans aujourd'hui, à 83 ans. J'aurais le goût de l'invoquer. Mais auparavant, je voudrais vous signaler, on peut trouver ça distribué par Fides, 3 livres. L'un de Mgr Maurice Couture, primat de l'Église du Canada, ancien supérieur général des Pères de Saint-Vincent de Paul, homme près des pauvres. Il a parlé il y a un an, à ces temps-ci, de la pauvreté, un appel à la solidarité, et il y a quelques mois à peine, Fides a publié en quelques pages son discours, sa conférence, 41 pages. J'ai lu ça hier soir et c'est très beau. C'est très audacieux aussi, très audacieux. Tous ces changements sociaux signifient qu'être pauvre aujourd'hui, dit-il, dans une société qui possède en abondance des ressources naturelles et des moyens de créer des biens de consommation, c'est vivre une sorte d'apartheid social. Les pauvres aujourd'hui souffrent au sein de la richesse. Et puis il y a le cahier Fêtes et Saisons, préfacé par nul autre que Jean-Pierre Prévost, une de nos vedettes, qui parle à la radio, de Radio Ville-Marie, le lundi, le mardi, le mercredi, à midi et demi, de la Bible. Et dans son introduction à ce livre, cette revue de Fêtes et Saisons sur Job, il dit, prostré sous les coups de la douleur, ou se dressant avec dignité pour protester son innocence, Job demeure contemporain de toutes nos souffrances. Très beau petit texte de Jean-Pierre Prévost. Et à l'intérieur, des textes absolument admirables sur Job et sur la méditation sur la pauvreté. Et enfin, un livre plus difficile de Marc Donzé, sur Maurice Zundel, « La pauvreté comme don de soi ». Ce sont des essais sur Maurice Zundel. C'est admirable, publié aux éditions du Cerf, c'est distribué par Fides encore. Remarquable ouvrage. Ah, c'est beau, 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 ça a 125 pages. Donc, de petits ouvrages remarquables sur la pauvreté. Puis pour comprendre, Dorothy Day, qui a écrit « The Long Loneliness, From Union Square to Rome, By Little and By Little ». Puis « The Dorothy Day Book », j'ignore si ses livres, elle a même écrit un livre sur Thérèse de Lisieux. J'ignore si ses livres ont été traduits en français, je ne les ai jamais trouvés. Oh, Dorothy Day, vous qui serez bien heureuse, je l'espère, du fond de mon cœur, faites que nous trouvions le sens profond de l'Évangile et que nous ouvrions non seulement nos cœurs, mais nos portes aux pauvres, que l'on les accepte à notre table, qu'on les nourrisse vraiment, pas simplement en allant ailleurs, mais en les recevant chez nous dans l'audace de l'Évangile, et que nous partagions avec eux nos richesses, que nous donnions du superflu comme la pauvresse de l'Évangile qui a donné le surplus en donnant son petite pièce de monnaie, eh bien que nous donnions des centaines, des milliers de dollars à ces pauvres gens qui ont tant besoin de nous. Éclairez nos cœurs, Dorothy Day, et faites que l'Esprit Saint nous dévore de son feu. Amen.